Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Katanga oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de vous joindre à nous pour ce nouveau numéro des paroles aux auditeurs. Pierrot et la Mégie devant ces micros. Le président de la République vient de décréter un état de siège au Nord Kivu et à Ituri au regard de la gravité de la situation dans ces deux provinces conformément à l'article 85 de la Constitution. Annonce faite vendredi tard dans la soirée par le ministre de l'Information et de Médias lors de la lecture du compte-rendu du premier conseil des ministres. Cette décision a été prise après concertation entre le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et le Conseil supérieur de la Défense. Il constitue exactement du premier ministre et de deux présidents de deux chambres du Parlement. L'objectif poursuivi est de mettre rapidement fin à l'insécurité qui décime quotidiennement la population. Qu'en pensez-vous? 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ce magazine que vous pouvez également commenter sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Dieudonné Nyangasa est à la mise en onde et Christelle Fritti est à la réalisation de ce programme que vous présente Pierrot et la Mégie, fidèles auditeurs. Bienvenue à tous.
Participez à Parole aux auditeurs, appelez au 081 890 49 69 ou au 081 890 63 30. Déposez-nous votre commentaire sur notre page Facebook, soit à pa@radiocapi.net. Et pour suivre Parole aux auditeurs en direct, rejoignez-nous sur www.radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Et pour cet échange, nous avons associé et nous recevons dans ce studio M. Mohamed Boulé, général à la retraite, ministre honoraire de la Défense et député national. Honorable Mohamed Boulé, bonjour.
Bonjour Pierre.
Merci d'avoir accepté encore une fois de plus notre invitation pour cet échange. Commençons par les débuts. C'est quoi exactement un état de siège?
Merci beaucoup Pierrot. Je voudrais, pour rafraîchir la mémoire, que l'état de siège, depuis la loi sur le gouvernement du Congo belge, nous sommes le 18 octobre 1908, il y a une disposition sur le pied de l'article 19 alinéa 2 qui prévoit l'état de siège. Et si nous passons à la loi fondamentale du 19 mai 1960 avant notre accession à l'indépendance, à son article 187 alinéa 2, il y a l'état d'urgence. Et je peux faire la promenade de tous les actes ou décrets, même le décret 17 juillet 61, que ce soit la constitution du 1er août 1964, en passant par la constitution du 24 juin 1967, acte portant disposition constitutionnelle du 4 août 1982, la loi numéro 93-001 du 2 avril 1993, en passant par l'acte constitutionnel, la transition du 9 avril 1994, les décrets constitutionnels numéro 3 du 27 mai 1997, à la constitution de la transition, et à nos jours, à la constitution du 18 février 2006, telle qu'elle est modifiée à ces jours, et particulièrement en son article 85, que je me propose de donner lecture pour une bonne compréhension. Sous le pied de l'article 85 de notre constitution en vigueur, stipule, lorsque des circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national, ou qu'elle provoque l'interruption des fonctionnements réguliers des institutions, le président de la République proclame l'état d'urgence ou l'état de siège, après concertation avec le premier ministre et le président des deux chambres, conformément aux articles 144 et 145 de la Constitution. Il en informe la nation par un message. Les modalités d'application de l'état d'urgence et l'état de siège sont déterminées par la loi. Et voilà, tout à l'heure, quand vous faites la synthèse, vous dites que le président, lors du dernier conseil des ministres, Dans le compte rendu du conseil du gouvernement, il était annoncé que le président de la République s'est concerté avec le président des deux chambres, le premier ministre qui est aussi membre du conseil supérieur de la défense, ainsi que le conseil supérieur de la défense. Certainement après l'évaluation de la situation sécuritaire dans ces deux provinces, Nord-Kivu et Ituri, qu'il faille prendre cette disposition. Allez-vous me dire que, et c'est la première fois que cela se passe dans notre pays? Je vous dirai non. Il y a eu beaucoup de... On a proclamé pas mal des temps d'urgence pour des situations et à répétition. Vous constaterez que ce n'est pas la première fois qu'on aura décrété, qu'on aura proclamé l'état d'urgence pour la province du Nord-Kivu ou bien pour l'Ituri. Je voudrais, pour cela, vous dire que par le décret numéro 365 du 19 septembre 1965, il était mis fin à l'état d'urgence dans les territoires de Goma et de Rutshuru pour les mêmes causes de sécurité qui entravaient les fonctionnements réguliers des institutions dans ces provinces. Et un autre encore, vous savez, toujours après la guerre des 80 jours, il y a eu nomination du général commandant de la première région militaire au Chaba. C'était le fait général Singa Boyenge Musambaye, à la suite de deux guerres successives, la guerre des 80 jours et des 6 jours. Ce n'est pas tout. Par le décret numéro 339 du 15 septembre 1965, proclamant l'état d'urgence dans les territoires des moines d'Itou. Ce n'est pas tout. L'ordonnance numéro 87-058 du 8 avril 1999, généralisant l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national, le président de la République avait aussi pris des ordonnances dans ce sens-là. Et donc, l'état d'urgence était proclamé dans les régions du Nord et Sud Kivu. Et par la suite aussi, il y a eu une nomination des gouverneurs militaires pour cela. Et aussi, le 8 avril 1997, par l'ordonnance numéro 97-058, dans ce cadre-là, des gouverneurs militaires étaient nommés pour cet état d'urgence. C'est notamment la province du Bandundu, où en ce moment-là, le général de brigade, à cette époque-là, Kalume Numbi, pour le Bandundu, et pour la région du Bazaï, c'était le vice-amiral Iwanga Mata Nyomunyobo. Pour la région de l'Équateur, le général de corps d'armée Mukub Mundende. Pour la région du Kasaï occidental, le général de division Muleli Kaulu Lubega. Et pour la ville de Kinshasa, le fait général d'armée Amiral Lukima Bayati. C'est vous dire que ce n'est pas la première fois qu'on proclame l'état d'urgence. Et je voudrais aussi, peut-être terminer par là, l'ordonnance 67-282 du 7 juillet 1967, il était aussi décrété l'état d'urgence. Et puis par l'ordonnance 67-253 du 12 juillet 1967, et portant proclamation de l'état d'urgence sur les seules provinces orientales et Kivu, qui étaient suspendues. Donc, ce n'est pas nouveau, ce n'est pas un fait nouveau. Lorsque le président de la République, au regard de la situation, nous tous, quand nous nous réveillons le matin, nous ne cessons de pleurer nos morts. Et depuis 1997, à l'avènement de l'AFDL, jusqu'à nos jours, les groupes armés qui écument de ce côté-là, en plus des groupes armés étrangers, ADF Nalu, FDLR, ou certains rebelles des pays limitrofs, donc, comme le Burundi, et ajouter à cela les terroristes qui, aujourd'hui, dans notre pays, et donc, égorgent et éliminent des vies humaines. Et non pas père, les enfants sont victimes, les mamans, toute une famille.
Et c'est important.
Et c'est important.
Alors, maintenant, pour nos auditeurs, quand on dit un état de siège, c'est quoi exactement?
Lorsqu'on dit un état de siège, c'est-à-dire... les gouvernements civils en place et sursis. C'est-à-dire les gouvernements provinciaux, les gouverneurs sont, disons, les institutions provinciales et l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial ne peuvent plus fonctionner parce qu'on met en place d'autres autorités. Généralement, ça doit être des militaires. Actifs, ça peut se discuter, ou non actifs, ça peut aussi se discuter. Est-ce qu'on va mettre que des militaires ou pourquoi pas des policiers? Parce que lorsque, après ça, il y a toujours le maintien, le problème d'ordre public qui s'impose, et c'est la police qui est mieux indiquée quant à ça. Mais la situation des provinces-là, j'aurais bien voulu qu'on étende aussi à d'autres provinces. La province du Bas-Uele qui a aussi ses problèmes avec ses élevés mbororo, avec la NRA qui est là depuis 2005. Et alors ces élevés mbororo qui ne veulent pas rentrer chez eux, qui ont envahi, qui ne se soumettent pas à ça, bon, peut-être progressivement, ça pourra aussi s'étendre sur d'autres provinces, et pourquoi pas les Bas-Uele, pourquoi pas les Haut-Katanga.
Alors, quels sont les effets immédiats, ou on peut dire les effets directs d'un état de siège?
Les effets directs, lorsque, d'abord, il doit y avoir une loi qui, la procédure normale est que le gouvernement saisisse le Parlement, l'Assemblée nationale, les deux chambres. Si ces deux chambres ne sont pas en vacances, comme maintenant nous sommes en session ordinaire, des gouvernements de saisir l'une des chambres pour venir solliciter l'état d'urgence. Après que cela soit discuté en Conseil des ministres et adopté formellement. Et comment cela, le parcours de cela, les discussions, pour que le gouvernement puisse donner les assurances, la motivation et l'esprit même, la philosophie, pourquoi cette idée d'urgence. Parce qu'en ce moment-là, il y a un acte que le président devrait prendre par la suite, c'est l'ordonnance pour fixer les modalités pratiques de l'état de siège. Et vous comprenez que pour que cela ne puisse pas enfreindre les dispositions constitutionnelles, lorsque cette ordonnance est prise par le président de la République, chef de l'État, et ça doit être soumis à la Cour constitutionnelle pour voir si cette ordonnance n'énerverait pas certaines dispositions constitutionnelles. Et c'est le parcours. Et ce n'est qu'après ça qu'on va justement nommer, mettre en place la nouvelle administration. Généralement, comme je l'ai dit, ça doit être des militaires, des officiers de bonne moralité, de bonne probité, parce que là, je ne suis pas ici pour critiquer notre armée sur la place publique, mais il y a beaucoup de choses qu'on apprécie là. Les forces vives, la société civile disent ça a trop duré, il y a un certain nombre de militaires. On ne peut pas comprendre les rapports de forces pourraient être supérieurs à ces rebelles-là. Bon, ce n'est pas à moi ici de venir parler des problèmes d'analyse ou d'évaluation des capacités de nos forces qui sont déployées de ces côtés-là.
Alors, quelle peut être l'étendue des pouvoirs des forces armées ou aux services de sécurité pendant l'état des sièges?
Je le dis ici, l'étendue, c'est fixer les missions spécifiques pour, durant l'état de siège, sont fixées par l'ordonnance du président de la République. Il y a des choses certainement qu'on va extirper des prérogatives, parce que c'est un gouverneur de province, si vous voulez. Et donc, on ne peut pas extirper quelque chose, ne pas coller ça à la Constitution pour dire « voici vos missions ». Mais c'est déterminé dans les temps. Parce que l'état d'urgence ici, constitutionnellement parlant, ça couvre une période de 30 jours. Et lorsque les 30 jours sont épuisés, soit que le gouvernement saisisse de nouveau le Parlement pour une prorogation de 15 jours, d'une durée de 15 jours, qui reste ouverte. Mais la question que l'on peut se poser, certainement les hauts commandements militaires, le Conseil supérieur de la Défense examinerait ça autour du président de la République pour voir les types de menaces auxquelles on a affaire dans cette région et l'étendue de cela en 30 jours. Qu'est-ce qu'on peut faire dans 30 jours? Est-ce qu'il y a moyen de se déployer complètement? Il faut avoir des bons renseignements pour pouvoir réaliser, neutraliser Où qui se trouvent ces groupes armés de leur point de refuge actuellement.
Alors, on va écouter les auditeurs qui sont nombreux, qui veulent bien intervenir dans cette émission. Il y a Christian qui est ici à Kinshasa, Marie-Paul à Kisangani, 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Mais vous pouvez également commenter les sujets sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Parole aux auditeurs.
Christian, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour Pierrot et la Meji. Bonjour à l'invité.
On vous écoute, Christian.
Merci Pierrot, permettez-moi de compléter un tout petit peu l'invité pour dire qu'en outre, les dispositions, comme les dispose la Constitution, en ce qui concerne l'état d'urgence ou l'état des sièges, les mesures de gestion d'exception sont soumises aussi au contrôle de la Cour constitutionnelle. Et donc, ce qui revient à dire que les circonstances exceptionnelles n'excluent pas, la légalité, ou elles instaurent plutôt au contraire une légalité d'exception. Qui confère soit au juge de pouvoir très étendu. Entre autres, vous avez les contrôles de la légalité proprement dite, appelés ici les contrôles de la constitutionnalité. Il y a également les contrôles de l'existence même des circonstances exceptionnelles et les contrôles d'opportunité. Dans la même ordre d'idée, Pierre Lamézi, les constituants ont prévu quelques garde-fous, notamment dans l'article 61, sur les champs de manœuvre de l'autorité de police. Et donc, ici, l'on veut tout simplement dire que les circonstances exceptionnelles ou encore l'état de siège ne doit en aucun cas déroger, n'est-ce pas, aux principes fondamentaux tels que les droits à la vie, l'interdiction de la torture, des peines ou traitements cruels ou inhumains ou dégradants, l'interdiction de l'esclavage, le principe de la légalité des infractions et des peines, les droits à la défense, les droits au recours, l'interdiction de l'emprisonnement pour dettes, la liberté des pensées, des consciences et des religions. Mais Pierrot, pour revenir maintenant à ce que nous avions fait comme commentaire, c'est nous devons également constater que bon nombre de ceux qui, des personnalités ou encore des phares de ceux qui sont là-bas à l'Est, sont en quelque sorte en porte-en-faux avec la population. Et donc, ce qui voudrait tout simplement dire qu'il y a crise de confiance entre, n'est-ce pas, la population et ceux qui doivent normalement les protéger. D'où il faudrait vraiment penser aussi, n'est-ce pas, si possible, au changement de personnes ou encore des équipes pour pouvoir mener à bien ces combats. Parce que si on remet toujours les mêmes personnes, nous craignons que le bavir soit encore en répétition. Mais au-delà de ça, il y a encore ces problèmes, cet épineux problème des moyens, j'ai appuyé la Meji. Notre, en fait, pas seulement l'armée, mais le pays n'a pas assez de moyens. Nous nous posons la question, est-ce que le problème, le moyen matériel, logistique, financier, ne vont pas encore se poser avec cette question de l'état des sièges, parce que déjà nous avons un budget très déficitaire, alors avec cette réalité, vraiment nous ne savons pas comment que cela va aboutir, mais toutefois, nous soutenons vraiment cette mesure, étant donné que le voyage vers la réussite commence par un pas, et surtout, il faut prendre des décisions très courageuses en ce qui concerne une guerre asymétrique. Mais je vais finir avec une question, si l'invité peut nous éclaircir, dans cette circonstance, est-ce que bientôt, l'organe délibérant provincial, je veux dire l'Assemblée provinciale, sera-t-elle suspendue ou si l'Assemblée provinciale sera toujours, va continuer à fonctionner? Est-ce qu'il y aura également des militaires qui vont prendre les rênes de ces assemblées provinciales? Et donc voilà un tout petit peu ce que je pouvais dire à ce niveau.
Merci beaucoup Christian, c'est une période exceptionnelle, des mesures exceptionnelles. Mais vous avez évoqué la question de respect des droits, vous avez suivi hein, la société civile du Nord Kivu, nous en avions parlé dans notre journal derrière le week-end, qui s'inquiétait, est-ce que l'état des sièges va-t-il permettre à ce que les droits de l'homme soient violés? Mais vous estimez que malgré l'état des sièges, la constitution doit être respectée en ce qui concerne les droits de l'homme, mais vous évoquez aussi la question des moyens, tout ça va être rendu public hein, par les autorités compétentes. Merci beaucoup, et vous avez demandé hein, quel rôle pourra jouer l'Assemblée provinciale dans ces cas. Merci beaucoup Christian. Ici à Kisangani, c'est Marie-Paul qui est avec nous en ligne. Marie-Paul, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à votre invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Okapi.
On vous écoute, Marie-Paul.
Oui, monsieur le journaliste, je pense que la décision du président de la République démocratique du Congo, c'est une décision qui est vouée à l'échec exponentiel, comme les précédentes stratégies mobilisées face à l'insécurité humiliante, pourquoi pas horrible en RDC. Bien que cette mesure relève, bien entendu, de la disposition constitutionnelle du président de la République, mais cette mesure qui vient d'être prise par le président de la République n'apportera aucune solution escomptée. Et pourquoi? Il y a plusieurs raisons qui concourent à ce scepticisme. Monsieur le journaliste, la première raison, c'est que la RDC, c'est un pays qui est un et indivisible, et que la situation qui se passe dans une province ou à une autre doit intéresser tous les pays. Et nous le savons également que dans une pareille situation, la mesure du président de la République doit être une mesure générale pour que tous les Congolais compatissent justement à ces malheurs ou à cette calamité qui a frappé une des parties. Et deuxième raison, c'est que nous le savons fortement bien que les frontières de la RDC sont des frontières qui sont poreuses. Il y a la porosité des frontières. Et entre, justement, les pays externes, pourquoi pas aussi à l'intérieur des provinces. Déjà, avec cette mesure qui est sélective, je pense que les rebelles vont faire des mutations et ils vont se retrouver dans d'autres provinces qui ne sont pas concernées par cette mesure. Ça, c'est deuxième raison. Troisième raison, c'est que il y a aussi les caractères publicitaires. Vous savez, dans la stratégie, lorsque les pays prennent des dispositions, les pays prennent des dispositions pour sauver la population des crises et pour des calamités, on doit éviter des caractères publicitaires. Le président fait beaucoup la publicité de ces mesures et puis dans les médias, nous les constatons. Alors que du point de vue stratégique, nous sommes dans la géostratégie, ce sont des mesures graves parce qu'on doit trinquer des ennemis, des rebelles qui sont des individus. Nous sommes dans une réalité d'une guerre asymétrique. On ne devrait pas mettre ça beaucoup plus à l'espace public avec toute forme de publicité que nous connaissons.
Alors, ça n'est que, s'il vous plaît,
il y a l'infiltration. L'armée congolaise est infiltrée à tous les niveaux. On les trouve, les étrangers, dans l'armée. Je pense qu'aussitôt même, il y a même des réunions, lorsque on tient des réunions stratégiques, les rebelles sont informés à même moment. C'est la situation connue de tout le monde. Et s'il faut prendre des pareilles mesures, là où l'armée est infiltrée, je ne vois pas en quoi vraiment les FRDC va faire franche aux rebelles qui sont créés par les officiels et même les Congolais. Et alors, voilà, devant cet imbroglio, et d'ailleurs, dans ces stratégies, on fait associer les pays voisins, alors que nous le savons bien que les pays voisins prennent aussi part dans cet imbroglio que nous constatons dans notre pays. Voilà pourquoi, à mon sens, le président Félix devrait plutôt mettre en place une politique publique effective et réadaptée des réformes des systèmes de sécurité et de défense dans notre pays. Nous parlons des choses, oui, ce sont, nous parlons beaucoup des choses, parce que si
jamais dans le système de sécurité et de défense de notre pays, il n'y a pas de réforme. Avec la reconfiguration que nous avons maintenant, et la reconfiguration des brassages et des gens qui sont venus de part et d'autre, des armées, des rebelles qui sont devenus des généraux, ainsi de suite, et devant cet aspect des choses, même si on montre des stratégies communes, on ne saura pas.
Mais alors, vous estimez au même moment,
et oui. Aussi, dans cette réforme, on doit impliquer toute la population. La population alors, doit être impliquée toutes les instances.
Oui,
je pense
alors,
que Christian venait de le rappeler. On ne doit pas confondre l'état des gens, mais on doit, comme l'invité venait d'expliquer, quand c'est l'esprit de la lettre, il y a aussi des lois, il y a des lois organiques qui régentent sur cette situation.
Oui, Marie-Paul.
On ne doit pas paralyser l'administration pour mettre l'administration au pays.
Alors, Marie-Paul, mais alors, s'il vous plaît, Marie-Paul, si on peut s'entendre un peu, Marie-Paul, est-ce que vous m'entendez?
Toutes les dérives que
oui, Marie-Paul, est-ce que vous m'entendez? Marie-Paul, est-ce que vous m'entendez?
Les jeunes ne travaillent pas.
Alors, il est difficile de faire l'interactivité avec Marie-Paul. C'est comme on lui disait à l'Assemblée des auditeurs, hein. Il faut toujours, dans le débat, écouter la relance pour nous permettre de pouvoir continuer. Est-ce que Marie-Paul, on peut vous relancer?
Justement de la création d'emplois pour essayer d'employer des jeunes congolais et congolais.
Voilà, ça c'est difficile. J'allais lui poser la question parce qu'il dit qu'il faut associer à la population à ces genres de mesures, mais au même moment il dit qu'il ne faut pas faire la publicité, il a dit qu'il ne faut pas parler de la mesure. Comment on va y arriver? Merci beaucoup Marie-Paul, mais vous êtes vraiment pessimiste parce que vous estimez qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui dans notre pays, que ce soit au niveau de l'armée, que ce soit la porosité de nos frontières, les provinces, et même vous évoquez la question qu'il serait mieux de généraliser l'état des sièges. Merci beaucoup. Alors, nous avons à Goma Monsieur Carly Zanzoukassivita, gouverneur de la province du Nord Kivu. Monsieur Carly, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, bonjour Elamedi, bonjour aux auditeurs de la radio Capi.
Et vous avez lancé le message demandant à la population de pouvoir soutenir la décision de décréter l'état d'urgence, vu parce que vous gérez au quotidien ce problème des tueries et des morts et de l'insécurité. Et vous estimez que la mesure elle est sécuritaire par rapport aux problèmes auxquels vous faites face aujourd'hui en tant que gouverneur des provinces?
Oui, effectivement. D'abord, il fallait se poser la question s'il y a les circonstances qui ont milité sur la volonté du gouvernement congolais et surtout la volonté du commandant suprême à pouvoir saisir les instances habilitées pour que les temps d'urgence soient ou des sièges soient décrétés dans notre province, y compris l'Ituri. À ma qualité de gouverneur, je peux confirmer qu'il y a des menaces sérieuses sur la sécurité de notre pays, l'intégrité. Vous le suivez en même temps que nous, en Béni, spécialement même dans l'Ituri, comment les vies humaines sont en train de périr chaque jour, du jour au jour. Donc il est important pour nous, la République démocratique du Congo, spécialement le commandant suprême, de pouvoir imaginer les stratégies qui peuvent nous aider d'aller vite à trouver la solution. Et dans le cadre de l'état de siège, j'ai bien compris qu'il faut mobiliser la population autour de cette question de paix et de la sécurité. C'est la raison pour laquelle, à ma qualité de gouverneur de province, j'ai commencé à cette mobilisation parce que au fait, au-delà des restrictions de liberté qui peuvent y avoir, au-delà de l'engagement de l'armée, mais il faut une mobilisation. On ne fait pas la guerre sans la population. C'est la raison pour laquelle j'ai bien saisi l'opportunité pour demander à ma population du Nord Kivu, qui souffre de l'insécurité, qui souffre des affres du terrorisme à Béni, de capitaliser ce moment pour que nous puissions arriver à trouver des solutions pour la paix dans notre province.
Alors, mais on a suivi au lendemain de ce message, hein, la société civile qui a assez de réserves parce qu'elle évoque la question de violation des droits de l'homme. On a suivi aussi les mouvements citoyens comme Lucha, par exemple, qui demande des sursoirs parce qu'il faudrait un dialogue vraiment franc et sincère. Alors, comment vous, en tant que gouverneur, vous pouvez vous adresser aux uns et aux autres, hein, pour permettre à ce qu'il n'y ait pas deux visions différentes, la population voit de sa façon ou le pouvoir public voit de sa façon la question de mesures pour régler cette insécurité?
C'est l'objet même de notre intervention que nous avions faite, parce que nous voudrions que tout le monde puisse regarder dans la même direction. Mais nous sommes un pays démocratique, nous nous appelons République démocratique du Congo, nous respectons la liberté des uns des autres, leurs opinions. Il n'est pas aussi interdit d'amener quelques critiques pour que, effectivement, la mesure, surtout que les mesures d'application ne sont pas encore édictées, pour que l'état d'urgence soit à mise en œuvre. Et donc, peut-être certaines opinions peuvent permettre que nos députés et le pouvoir central puissent considérer certains aspects de la question et si permettre effectivement au président de la République comme mandat suprême de réussir sa vision, celle de pacifier l'Est de la République démocratique du Congo.
Avant de revenir ici à Kinshasa, pensez-vous que dans les propositions, parce que vous l'avez dit, les élus nationaux, on a un élu d'ailleurs qui était un ancien ministre de la Défense, qui discute au Parlement sur cette question, peut-être des mesures d'application quand le gouvernement pourra déposer. Alors quels sont les éléments clés que vous, en tant que gestionnaire direct de la population dans cette zone, vous auriez aimé qu'ils soient associés vraiment à la réflexion aujourd'hui pour rendre les travaux plus efficaces sur terrain?
Il est nécessaire de le dire que pour la question de la paix au Nord Kivu et à l'Est de la République démocratique du Congo, il faut qu'il y ait d'abord un engagement citoyen et républicain, donc voir tous les compatriotes congolais à soutenir les forces armées de la République, mobiliser les moyens financiers pour que les éléments qui vont être déployés pour faire la guerre, pour faire la sécurité publique, ne puisse pas manquer la logistique. Il est important que tous ces aspects soient considérés, étant tandis que la République démocratique du Congo, surtout l'espace dans lequel moi je vis, le Nord Kivu, c'est un espace assez vaste. Il nous faut assez d'hommes, il nous faut assez de moyens de logistique pour que l'armée qui va être mise à contribution dans le cadre de l'état d'urgence puisse être à même, évidemment, de répondre aux défis de la sécurisation.
Alors, nous vous gardons en ligne, Monsieur Karlin Zanzou Kassivita, gouverneur du Nord Kivu. Il y a beaucoup d'auditeurs qui veulent bien intervenir dans cette émission. Mais nous avons aussi ici à Kinshasa, Monsieur Mohamed Boulé, député national. Alors, Monsieur Mohamed Boulé, vous avez suivi les auditeurs et vous discutez au niveau du Parlement, vous vous occupez de la loi. Le gouverneur a évoqué les mesures d'accompagnement que nous n'avons pas encore parce qu'on ne va pas les débattre parce que nous ne les avons pas encore. Ça pourra peut-être être soumis. Alors, il y a ces inquiétudes, notre ami Christian, sur la question de respect des droits de l'homme et les inquiétudes de notre ami Marie-Paul qui dit lui-même qu'il est pessimiste. Pourquoi ne pas généraliser? Parce que nous risquons d'avoir un effet de contamination d'une province à l'autre si seulement on concentre tous les efforts sur les deux provinces, l'Ituri et le Nord Kivu.
Merci beaucoup. Je remercie tous les intervenants, que ce soit Christian à Kinshasa, Marie-Paul à Kisangani et le gouverneur du Nord Kivu depuis Goma. Oui, c'est vrai, et je crois que il a abondé dans le même sens que moi, parce que la Constitution le prévoit sur les pieds de l'article 85, je l'ai dit, un des alinéas, il en informe la nation par un message. Mm-hmm. Mais par contre, comme vous l'avez dit, je prête votre mot pour Monsieur Paul qui semblait être pessimiste pour dire que l'on ne doit pas donc faire des publicités. Écoutez, la publicité par la radio aussi, c'est aussi un moyen de communication. Le président de la République, lorsqu'il doit communiquer, il doit passer nécessairement par la radio et la télévision. Et donc, c'est constitutionnel. Il n'a péché sur aucun des dispositions constitutionnelles. Je l'ai dit, les inquiétudes, Christian a bien rappelé les dispositions de l'article 61, c'est aussi la raison pour laquelle j'avais insisté pour dire l'ordonnance que prendra le président de la République quant aux modalités pratiques de cet état d'urgence est envoyée urgemment à la Cour constitutionnelle. Oui. C'est justement à la Cour constitutionnelle qui lui revient de voir s'il y a aucune disposition constitutionnelle
qui fâche la Constitution,
qui soit violée par ces dispositions-là. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé aussi de la durée de l'état d'urgence. Mais j'ai rappelé ici plusieurs états d'urgence que nous avons connus dans notre pays, y compris le Nord Kivu. Je l'ai cité ici, j'ai cité Goma, j'ai cité Rutshuru. Et à l'époque, Ituri aujourd'hui, qui balaye tout, était aussi concerné, et bien d'autres territoires. Et je m'apaisante parce que je suis à l'aise. Je fais des recherches pour avoir ces éléments de référence comme jurisprudence. Et c'est pas la première fois. Mm-hmm. Et donc, ce qu'il dit là est vrai. La logistique, oui. Les types de terrains. Moi-même, je suis un ancien et j'ai travaillé à l'état-major général. Et nous avons pris des dispositions en ce moment-là, paix à son âme, avec le général Bouzamabé. Il y avait le 411e bataillon qui était déplacé, qui s'était déplacé, qui avait son état-major à Béni. Les contreforts de Rouenzo, depuis Mutuanga, de Lume, Kiavignongue, Ichasla, et j'en passe, même Irengeti, on avait maîtrisé la situation jusqu'à la frontière, jusqu'au lac Vert. Est-ce que c'est impossible avec nos éléments? Mais c'est vrai. Il faut lancer maintenant ce commandant qui aura la responsabilité aussi sur les opérations, conformément à ces directives qui sont définies dans l'ordonnance du président de la République, pour avoir un autre esprit de défense. J'insiste bien, ces concepts disent que ça dit un esprit de défense. C'est que la population dénonce. Bon, évidemment, les temps d'urgence, il y aura aussi les conseils de guerre. Le conseil de guerre supérieur des choses opérationnelles qui va suivre pour traquer tous ces éléments armés
qui pourraient violer
qui auraient violé cela, y compris les éléments civils qui ont créé et en violation de la constitution qui ont fait ce qu'on appelle trahison, créer des groupes armés, les armées, mais la faiblesse, le premier ministre Jean-Michel Sama l'a dit, il sera plus question d'intégrer les éléments des groupes armés. Ils doivent répondre de leurs actes, comme ayant violé la Constitution, comme auteur avéré de la trahison au regard de cette Constitution. Nous ne devons pas nous décourager pour cela, parce qu'avant, les états d'urgence qui ont donné le meilleur des résultats pour rétablir la paix. Aujourd'hui, peut-on remettre en question qu'on ne faille pas et tenter cette expérience. D'ailleurs, à un certain moment, même la société civile, que ce soit Lucha, tout le monde était d'avis. Pourquoi ne pas proclamer l'état d'urgence? Aujourd'hui, on fait un pas et les autres doivent être pessimistes.
Alors, on doit s'engager dans cette...
Nous devons nous engager pour soutenir cet état d'urgence.
Et c'est pourquoi, d'ailleurs, nous avons le gouverneur du Nord Kivu qui lance cet appel à la population. Alors, on retourne au standard. Parfait est à Bukavu, dit Alidor est à Kananga. 081-890-4969 pour c'est les numéros d'appel. Mais vous pouvez déposer votre commentaire sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs.
Parole aux auditeurs.
Alors, parfait, vous êtes avec nous, Debout à vous. Bonjour.
Oui, monsieur Hichier.
On vous écoute, parfait.
Oui, madame. Oui, monsieur.
Oui, on vous écoute, vous êtes en pleine émission, oui, parfait.
J'apprécie beaucoup l'idée qu'a pris le président de la République, son excellence, Félix Antoine Tshilombo. Premièrement, c'est terme que nous avons trop de difficultés qui se passent au niveau de l'Est de notre pays, la République démocratique du Congo. Bon, mais aussi, je me dirige un peu compte tenu de la manière que ça a été, où j'ai dit que ça a été la précipitation, vu qu'il n'y avait pas eu une forte étude par rapport à la réforme de notre armée, les FARDC, qui semblait être jusque-là infiltré par quelques groupes incontrôlés. Mais aussi, je pense qu'il faudrait qu'ils puissent encore penser au niveau de la République. Je peux dire comment revoir aussi les conditions de vie des militaires qui sont au front, parce qu'au niveau de leur paiement, vraiment, ça n'en offre pas. Ils ont un salaire dérisoire, ils ne sont pas bien encadrés. Et on verrait peut-être que ceux-là qui viennent en aide sont très bien encadrés, puisque moi j'aurais voulu que ça soit encore repensé avant juste de se relancer dans cette idée des forces en appui, ou bien de faire cette mesure d'état de siège.
Alors, si on vous comprend, oui, si on vous comprend bien, parfait, oui.
Oui, monsieur.
Allez-y, oui.
Oui, je demanderais encore aussi s'il y a moyen de chercher aussi d'autres moyens, d'autres mesures qui seraient un peu salvatrices par rapport à la situation de ce qui s'est fait, qui se passe au niveau du site Kivu, parce que nous avons aussi le même cas, c'est pas tout à fait comme dans le nord Kivu, mais aussi je pense qu'il faudrait qu'il y ait aussi d'autres mesures par rapport à la situation qui se passe au niveau du site Kivu.
Merci beaucoup, parfait. Vous souhaitez qu'il y ait, que la mesure d'état d'ici soit accompagnée des réformes nécessaires, parce qu'on sait qu'il y a des réformes qui prennent du temps, mais il y a aussi des mesures conjoncturelles, cela veut dire compte tenu de la situation, et des mesures structurelles. Mais vous estimez qu'il faut vraiment des mesures d'accompagnement pour la réussite de cela, au-delà aussi de considérer ce qui se passe au sud que vos voisins. Merci beaucoup. Alidor, vous êtes à Kananga. Merci d'être avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Pierrot, c'est Alidor Mampouya, à partir de la ville de Kananga dans la province du Pacifique central.
Oui, au grand mot
des grands remèdes, dit-on. La situation sécuritaire à l'est du pays avait entamé ou a pris des dimensions considérables et que nous saluons à bras ouverts la décision prise par les chefs de l'État de décréter l'état de siège dans les deux provinces du Nord Kivu et la province de l'Ituri. C'est parce que, avec cette situation, nous pensons que, avec l'état de siège, on va tenter tant soit peu de ramener la paix et dans cette partie de l'Est au regard de sang humain qui a coulé et qui continue à couler dans cette partie de l'Est du pays. Mais nous voulons que dans l'ordonnance qui sera prise, un certain nombre de mesures doivent aussi être prises dans cette ordonnance. Parce qu'aujourd'hui, l'état de siège, sans réforme de l'armée, de la police et des services de sécurité dans cette province, ça sera de la peine perdue. Il faut aussi qu'on puisse allouer les moyens financiers conséquents aux hommes des troupes. Parce qu'on ne doit pas se voiler la face. La guerre de l'Est, c'est la guerre des minéraux. Et ce qui fait que, par moment, il y a beaucoup, aussi bien d'officiers du côté des forces loyalistes, des hommes des troupes qui s'infiltrent aussi et qui sont aujourd'hui qui entretiennent une certaine complicité avec les rebelles. Parce que tout le monde veut avoir de l'argent et c'est comme ça que cette guerre-là est entretenue aussi bien par nos forces loyalistes que par les rebelles. C'est comme ça que cette fois-ci, nous voulons premièrement qu'il y ait une réforme. Il y a aujourd'hui des officiers dans l'armée, dans la police, nous dans les services de sécurité, qui ont déjà dépassé plus de 20 ans dans la même région. Et il y a aujourd'hui des hommes de troupes qui sont toujours là. Ils ont été recrutés, engagés, ils travaillent là, ils savent tout ce qui se passe. Et si aujourd'hui on se limite seulement à décréter l'état de siège, sans qu'il y ait une réforme, sans qu'on puisse permettre les hommes des troupes, et sans qu'on ait ceci avec la procédure de brassage des anciens hommes des troupes, on les brasse au sein des forces loyalistes, on les engage, ils commencent à travailler toujours dans la région de l'Est, donc on ne va pas mettre fin à ce cycle infernal de massacre dans la région de l'Est. Donc cette fois-ci, nous pensons que c'est la bonne et que cette mesure d'état de siège, et pour qu'elle soit plus salvatrice au peuple congolais en général et à la population de l'Est en particulier, elle doit être accompagnée d'un certain train de mesures drastiques pour qu'on cesse une fois pour toutes à cette insécurité qui nous laisse parler d'elle dans cette partie de l'Est du pays.
Merci beaucoup Alidor, vous estimez qu'il faut des mesures d'accompagnement. Alors, nous revenons à vous, Monsieur Karlin Zanzoukasevita, gouverneur du Nord Kivu. On sait que la question de l'insécurité au-delà des ADF que vous avez évoqué dans le message que vous avez adressé à la population, mais il y a aussi la question des groupes armés locaux. Pensez-vous aujourd'hui qu'il y ait aussi un travail au-delà du travail militaire qui peut être fait auprès de toutes ces personnes, tous ces jeunes et toutes ces personnes qui sont impliqués dans cette insécurité à travers le groupe armé locaux? Y a-t-il un travail à faire en dehors du travail militaire?
Oui, sûrement. Toutes les guerres, toutes les questions relatives à la sécurité ne se résout pas par les aspects militaires. D'ailleurs, je voudrais souvenir l'opinion congolaise, la population du Nord Kivu, que nous avions commencé, moi et mon collègue du Sud Kivu, un processus appelé démobilisation, désarmement et réinsertion communautaire, DDRC en sigle, où nous avions, nous comme gouverneurs de province, commencé à sensibiliser les groupes armés, effectivement sur appel du chef de l'État. Aujourd'hui, le président de la République a capitalisé cette expérience et une ordonnance pouvant consacrer une autonomie à cette structure DDRC qui va effectivement travailler avec les provinces où il y a des groupes armés pour que les jeunes Congolais qui ont pris des armes puissent les déposer volontairement et s'y être réinsérés dans la vie sociale. À ce stade, la République démocratique du Congo, à travers la volonté du chef de l'État, même le message 4, à travers les discours programmes du Premier ministre, l'option est déjà levée. On ne peut plus intégrer d'une façon in globo les éléments des groupes armés dans notre armée. Parce que la volonté du président de la République, c'est de construire un système de défense dissuasive, capable de faire face à toutes les éventualités. Nous connaissons les limites de l'intégration des groupes armés dans notre système de défense. C'est la raison pour laquelle, au-delà de ce qui se passe à Beni, la guerre des terroristes est alliée de mobiliser la population autour des idéaux de la paix. C'est pourquoi, au stade de l'état d'urgence qui devra être ordonné par le président de la République, nous pensons aussi que c'est un message fort pour que les jeunes gens qui détiennent les armes puissent les déposer volontairement.
Alors, mais on sait que le processus de DDRC a connu aussi certains soucis sur les plans de moyens. Il y a par exemple de membres de groupes armés qui ont été qui se sont regroupés dans le centre et puis après quelques-uns sont retournés. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut avoir qu'il y a des engagements concrets pour qu'on ait de moyens pour permettre à ce que ce processus de DDRC puisse vraiment fonctionner et que ces jeunes qui ont la volonté de pouvoir quitter les groupes armés ne puissent pas réintégrer par manque d'encadrement?
C'est pourquoi au niveau de la province Nord Kivu, nous avions soutenu, nous soutenons l'idée de cet état de siège, parce que l'esprit de l'état de siège permet aussi au président de la République et au gouvernement central d'allouer les moyens conséquents pour l'espace où l'état de siège a été décrété. Et donc, à ce stade, il ne faut pas seulement voir les aspects militaires, mais il faut voir cette volonté exprimée par le président de la République de pouvoir donner priorité à la question de la sécurité dans les deux provinces. Et je m'imagine que les moyens devront aussi suivre pour que tous les jeunes gens qui ont la volonté de déposer les armes volontairement puissent les déposer et ainsi entamer la question de la réinsertion communautaire. Parce qu'au fait, nous avons déjà une loi relative à l'armée congolaise. Nous ne pouvons plus imaginer que le fait d'avoir pris une arme dans ce village, cela vous donne un quitus d'aller directement dans l'armée congolaise ou la police.
Alors, M. Mohamed Boulay, le gouverneur a évoqué cette question de la réinsertion communautaire. Vous avez l'expérience de l'état des sièges, vous en avez évoqué. Alors, est-ce qu'on doit seulement y aller sur les considérations militaires? Quelle est la place exactement de cette sensibilisation pour arriver aussi à résoudre cette question de groupes armés par rapport, par exemple, à cette question de la lutte contre la pauvreté, de la réinsertion communautaire?
Oui, la lutte contre la pauvreté ne doit pas inciter les jeunes gens à prendre des armes. Nous devons tous nous mettre d'accord. Un, la défense et la sécurité, c'est un domaine de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, et non avec les provinces. Et sous le pied de l'article 190 de notre Constitution, qui stipule « Nul ne peut, sous peine de haute trahison, organiser des formations militaires, paramilitaires, et des milices privées, ni entretenir une jeunesse armée. » Il y a eu beaucoup d'accords, d'amnistie accordés, mais c'est comme si c'est pour inciter les gens à aller prendre des armes, alors que la réforme dont parlent les intervenants de tout à l'heure, mais pour l'armée et la police, nous sommes dans le processus de la réforme. C'est la mise en œuvre qui pose problème depuis qu'on a pris des lois, des organiques pour la réforme de l'armée et de la police nationale. Ce qui reste maintenant pour un accompagnement pour la mise en œuvre, nous l'avons toujours dit, c'est les fonds, c'est les moyens. Ces moyens, on ne peut pas les avoir à travers le budget national qui ne dépasse pas tout ce qu'on a là. C'est pour, on n'arrive même pas à payer nos militaires correctement. Mais on a dit, il faudrait, et le Premier ministre a cette tâche-là, il en a conscience, qui doit venir prochainement déposer une loi de programmation militaire. C'est-à-dire, ce qui va permettre, c'est une loi pluriannuelle. Et donc, quant à dire, ils ont pris les armes, il faut les intégrer, mais les dégâts qu'ils ont faits les tueries dont certains sont auteurs. C'est pourquoi pendant les temps d'urgence, il y a aussi la justice militaire, les conseils de guerre opérationnels qui doivent être là pour aider les commandements, pour tout ce qui serait pris en flagrance, qui détenant des armes. C'est aussi cela, voilà, le moyen de pouvoir décourager définitivement ceux qui prennent les armes. Mais les groupes armés, les groupes armés qui écument dans le pays, à l'Est particulièrement, étaient connus. Il y a eu ces forums-là de Goma. Il y a eu des signataires de ça, malgré cela, mais ça écume davantage. Il faut y mettre fin. La façon d'y mettre fin, c'est de pouvoir aussi sanctionner de manière exemplaire.
On peut utiliser la carotte et les bâtons.
Tout à fait, tout à fait. Parce qu'il y a des accords. Moi-même, comme monsieur vice-ministre à la Défense, j'en connais quelque chose avec les accords que les groupes armés du Nord-Kivu, du Sud-Kivu, voire même de l'Ituri ont signé avec les gouvernements qui n'ont pas été respectés. Mais c'est vrai, ce n'est pas à plus de 40 ans qu'on peut intégrer l'armée. Nous avons les statuts de l'armée, de la police qui fixe, qui détermine l'âge, comment les modes de recrutement, la retraite et tout ça, la mise en disponibilité ou la révocation. Tout ce qui est reproché à ces officiers, à ces éléments, selon les uns et les autres. Mais il faut qu'il y ait de preuves et tout ça pour qu'on puisse les poursuivre. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas de preuves, mais il faut qu'on ait la courage. Ce n'est que en mettant en place la justice militaire pour accompagner
qu'on peut arriver, voilà. Alors on va écouter les deux derniers auditeurs et venir avec les uns et les autres pour conclure cet échange. Jérémy, vous êtes à Lubumbashi et à Sani, à Bukavu. En bref, peut-être en deux minutes, Jérémy, vous êtes avec nous, vous nous suivez, bonjour. Jérémy, vous êtes avec nous, bonjour. Voilà, Jérémy est un peu distrait sur sa ligne. Hein. On prend plutôt Hassani qui est à Bukavu. Hassani, merci de nous avoir rejoint. Bonjour.
Bonjour à vous, Cathy. Bonjour à tous les auditeurs de la fréquence de la paix.
On vous écoute, Hassani. On termine déjà cet échange. Quel est votre point de vue?
C'est vrai, l'état de siège déclaré par le président de la République en se passe une bonne décision, mais il faut que le gouvernement congolais s'appuie beaucoup plus sur son armée, parce que prendre de telles mesures, vraiment, c'est une façon de d'empêcher certaines choses. Et l'état de siège, quand les civils, en fait, les cours de tribunaux seront transformés en cours militaires, c'est déjà quelque chose qui ne peut pas vraiment bien permettre le bon rétablissement de la paix dans cette partie du pays. Mais vraiment, c'est une décision qu'il fallait d'abord prendre après avoir étudié certains préalables et certaines faisabilités pour afin voir si ça peut passer. Mais selon mon humble avis, il fallait que le gouvernement s'appuie beaucoup plus sur notre armée, parce que l'armée peut tout, mais déclarer l'état de siège, il y aura beaucoup de choses qui seront perturbées quant à ça.
Voilà, ça dit qu'on aura l'ordonnance qui pourra déterminer qu'est-ce qui doit être fait, mais beaucoup d'auditeurs sont revenus sur cette question. Il fallait étudier en amont. Je crois que le président de la République, quand on fait les études au niveau du pouvoir public, la population n'est pas impliquée. C'est pas une étude qu'on fait d'une manière spectaculaire. Je crois que c'est très bien. Merci beaucoup. On vous a suivi, mais vous soutenez l'idée, mais vous souhaitez aussi qu'il y ait beaucoup de mesures d'accompagnement. Alors, on revient à vous, monsieur Carly Zanzoukassivita, gouverneur du Nord Kivu, pour le dernier message qui est pour les auditeurs autour de cette question. Parce qu'on l'a dit, vous êtes vraiment celui qui est à côté de la population qui subit vraiment les affres de cette insécurité. Alors, quel est le dernier message que vous pouvez lancer dans cette émission autour de ces débats sur l'état des sièges?
Oui, mon dernier message est de réitérer ma volonté de voir la population de la République démocratique du Congo accompagner la mesure des temps de siège qui devra être ordonnée par le chef de l'État, mais aussi solliciter de l'opinion congolaise, aussi du gouvernement central. J'ai bien suivi l'honorable Boulet qui a parlé évidemment du manque de moyens, même notre capacité budgétaire à mobiliser le moyen, et je souhaite pour l'État que si on pouvait s'accorder comme peuple de donner des moyens, même extra-budgétaires, à l'armée congolaise pour qu'elle soit à même de répondre au défi de la sécurisation de l'espace à l'est de la République démocratique du Congo, ça serait une mesure aussi salutaire qui va nous permettre d'aller vite, parce qu'au fait, nous ne sommes pas un pays comme les autres. Nous avons un pays assez spacieux et nous devrons évidemment tenir compte de l'impératif sécuritaire, de la couverture sécuritaire de notre espace. Et pour le Nord Kivu, je crois que je serai le premier, si jamais dans l'ordonnance, demander qu'il y ait des contributions, même à terme de contributions individuelles, même au niveau d'autres services. Je crois que je serai parmi ceux qui vont mobiliser la population pour que nous puissions donner plus de moyens à notre armée.
Merci beaucoup, hein, Monsieur Karlin Zanzouka Sefita, gouverneur du Nord Kivu. Merci pour ce message. On revient à honorable Mohamed Boulé pour conclure cet échange. On a suivi les uns et les autres. Il faut quand même, à un certain moment, qu'on regarde, malgré qu'il y a des problèmes, mais qu'on regarde dans le sens de l'optimisme, pour ne pas utiliser les termes de notre ami Marie-Paul.
Merci beaucoup. Je voudrais féliciter le gouverneur du Sud Kivu.
Du Nord Kivu.
Pour son engagement, sa détermination, c'est à en féliciter. Je voudrais rappeler, lors de la guerre de 80 et de 6 jours, on a senti, j'ai parlé ici d'un nouvel esprit de défense, on a senti la mobilisation du peuple congolais,
Zaïrois à l'époque,
qui ici à Kinshasa, qui dans toutes les provinces équateur ont contribué. La Chikwang de Kinshasa ou de l'Équateur a atteint nos troupes au Katanga. C'est cela. Si, parce que ce n'est un secret pour personne, nous savons les limites de nos moyens budgétaires. Et je sais que s'il y a un appel de sursaut dans cet esprit de défense,
oui,
je suis certain que les filles et fils de toutes les provinces, en commençant par le nord, le sud, même ces provinces qui ne sont pas concernées par l'état d'urgence, à contribuer, nous verrons qu'il y aura les moyens pour cela. En ce qui concerne l'autre a dit qu'on transformerait non. Dans notre pays, nous avons les cours et tribunaux des juridictions civiles et des juridictions militaires. Qu'on ne fasse pas l'amalgame.
Oui.
Et lorsqu'il y a l'état de siège, en ces moments-là, c'est plus les cours et tribunaux militaires qui sont en action. Mais les problèmes de droit commun, évidemment, les cours et tribunaux civils peuvent le faire. Et donc, ici, j'encourage, certainement, nous aurons des discussions pour voir, discuter éventuellement, parce que la loi n'est pas encore là, et que nous allons nous investir pour que des recommandations soient faites aussi en direction du président de la République et pour son ordonnance qui prendrait dans ce sens en tenant compte de tout ce qu'on a évoqué. Merci.
Merci beaucoup, honorable Mohamed Boulé, d'avoir été avec nous dans cet échange. Merci à M. Karlin Zanzouka-Sivita, gouverneur du Nord Kivu. Merci aux auditeurs, vous avez été nombreux. Vous pouvez réécouter cette émission sur www.radiokapi.net. Merci à Dieudonné Nyangasa qui était à la mise en onde et Christelle Fritti qui était à la réalisation de ce magazine qui est Pierrot et la Meji. J'ai eu le réel plaisir de vous présenter. On se retrouve pour nos prochains numéros. Au revoir.